VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 22 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Tragédie à Bruxelles, des attentats terroristes font des dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés. Le gouvernement belge parle d'un moment noir pour la Belgique.
L'explosion a eu lieu au niveau de la station Malbec. C'est la station juste après Schuman, là où il y a les bâtiments des bureaux européens, tout ça. C'était une vision apocalyptique. C'était horrible.
Un témoin nous racontera ce qu'elle a vu au métro de Malbec, scène de l'une des explosions.
Présidentielle au Niger, la commission électorale annonce la réélection de Mahamadou Issoufou, mais l'opposition se prépare pour la résistance civile.
Dernier jour de la visite historique de Barack Obama à Cuba, le président américain devait rencontrer un groupe de dissidents et s'adresser au peuple cubain avant de s'envoler pour l'Argentine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Belgique, un deuil national de 3 jours est décrété après les attaques qui ont fait au moins 34 morts et plus de 200 blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. L'aéroport de Bruxelles-Zaventem est fermé jusqu'à nouvel ordre et le trafic du métro est suspendu. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Alphonsine Sorozo qui se trouvait dans la rame du métro au moment des explosions.
Je me trouvais dans la rame des métros. L'explosion a eu lieu au niveau de la station Malbec. C'est la station juste après Schuman, là où il y a les bâtiments des bureaux européens, tout ça. Avant que je prenne le métro à la station où je la prends habituellement, je venais d'apprendre qu'il y a eu une explosion à Zaventem, l'aéroport. C'est une dame qui était à côté de moi qui m'a parlé de cette information. Et nous avons commenté sur le chemin avec ce qui s'est passé dernièrement, l'arrestation du dernier terroriste qui était recherché par la Belgique en se demandant la suite qu'il allait donner. Et ça n'a pas fait 5 minutes. L'explosion a eu lieu. On était tous sous le choc. On avait une boule de feu. Puis, bon, la panique, on s'est levé. Le temps de trouver une issue de sortie, il y a eu une deuxième explosion. Et là, bon, les vitres, normalement, on commençait à casser les vitres pour pouvoir s'extraire des voitures et métro. Donc, on est sorti. On a cherché la première sortie pour accéder à la surface.
Vous avez vu des morts avant?
Ah oui. Déjà dans les tunnels, oui. À ma gauche, j'ai vu un homme qui était étendu, il était déjà mort. Il y avait des morceaux de chair humaine. L'horreur qu'on voit, c'était une vision apocalyptique. C'était horrible.
Alphonsine Sorozo, une rescapée de l'attaque du métro à Bruxelles, que nous écouterons un peu plus longuement dans la partie magazine de cette émission.
Après les attentats terroristes de ce matin à Bruxelles, les transports ont été interrompus et les habitants conviés à ne pas se déplacer. Au micro de Jacques Aristide, Henri-Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales d'origine congolaise, vivant dans la capitale belge, évoque l'atmosphère qui y prévaut.
Le pays est sous le choc parce que ce qui s'est passé ce matin est totalement inédit dans les annales de ce pays. C'est vrai que depuis quelques mois déjà, en fait, depuis le premier lockdown qui datait de novembre, il y avait déjà dans l'esprit des Belges une sorte d'attente un peu inquiétante par rapport à ce qui pouvait arriver. Il y a eu une surcommunication des autorités pour mettre en garde de la population, ce qui a provoqué malheureusement une sorte de panique. Passé cet épisode difficile, il a fallu évidemment reprendre une vie normale.
Et vous-même, en tant que citoyen belge, comment vivez-vous ces moments d'horreur que traverse la Belgique ?
C'est un moment extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle le gouvernement multiplie les appels à la solidarité, mais surtout à la responsabilité, car dans ce genre de situation, le pire à faire, évidemment, c'est de céder à la panique. Mais je crois que les Belges sont suffisamment mûrs pour comprendre cela, et donc toutes les mesures qui seront prises iront forcément dans le sens de l'intérêt bien compris des concitoyens.
L'analyste Henri-Désiré Nzouzi joint à Bruxelles. L'intégralité de cet entretien sur voafrique.com.
Réaction sur la scène internationale. Londres déconseille à ses ressortissants de se rendre à Bruxelles, sauf raison impérative, après les attentats qui ont frappé la capitale belge. C'est ce qu'a annoncé Downing Street. Les pensées et les prières du peuple américain se portent vers le peuple belge. C'est ce qu'a déclaré le président Barack Obama au début d'un discours à Cuba.
We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium.
Le président américain a promis que les États-Unis vont tout faire pour aider leurs amis et alliés belges à appréhender et juger les responsables. Il a ajouté, nous citons, « C'est un autre rappel que le monde doit s'unir. Nous devons être ensemble, sans tenir compte des questions de nationalité, de race ou de foi, pour vaincre le terrorisme », a dit Barack Obama.
Au Niger, la commission électorale vient de publier les résultats du second tour de la présidentielle, confirmant les prévisions qui donnaient le président sortant Mahamadou Issoufou largement vainqueur face à l'opposant Ama Amadou. Notre envoyé spécial Bagassi Koura fait le point.
Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord le taux de participation, 59%, parce que vous savez que le jour des élections, il n'y avait pas assez de monde ici à Niamey, et donc beaucoup se posaient la question comment allait être ce taux de participation. Eh bien, selon la CENI, ce taux de participation se situe autour de 59%. Et le président Issoufou Mahamadou, sans surprise, hein, a lui été réélu avec 92% des voix.
Faut-il voir dans ce succès les conséquences du boycott de l'opposition?
Oui, évidemment. Le boycott de l'opposition a donc facilité la tâche aux partisans de la coalition au pouvoir qui n'avaient personne pratiquement en face. Et donc, ça a facilité donc cette victoire. Une victoire qui ne plaît pas à tout le monde, surtout à ceux qui ne sont pas allés voter, notamment le camp de l'opposition.
Nous reviendrons sur les élections au Niger en seconde partie d'émission.
Au Burundi, le lieutenant-colonel Darius Ikurakure, chargé de la sécurité dans la commune de Ntangwa, au nord de Bujumbura, a été tué ce mardi par une personne armée dans les enceintes de l'état-major de l'armée burundaise. L'armée a fait savoir que l'assassin, qui portait une tenue militaire, s'est échappé. Reportage de Christophe Hurunziza.
Commandant du bataillon de génie de combat dans le camp militaire de Muzinda, dans la province de Bouvanza, au nord-ouest du Burundi, le lieutenant-colonel Darius Ikurakure a été assassiné mardi après-midi dans les locaux de l'état-major général de l'armée burundaise par une personne armée, selon les témoignages de certains militaires qui ont requis l'anonymat. L'officier supérieur, très proche du pouvoir, a participé aux opérations de maintien de la paix du Darfour, une mission qui est convoitée dans l'armée burundaise pour sa rémunération. Il était commandant du bataillon de génie de combat de Muzinda, bien équipé et spécialisé dans le déminage des explosifs et des mines. Le jour du putsch manqué du 13 mai dernier, il s'était illustré dans la protection des locaux de la radio-télévision nationale burundaise. Mais l'opposition burundaise considère l'officier supérieur comme quelqu'un qui s'est investi dans l'enlèvement, la torture et l'exécution des jeunes des quartiers contestataires de Mutakura, Chivitoke, Ngagara, Jabe et Musaga. Darius Ikurakure est le deuxième haut gradé de l'armée burundaise à avoir été tué dans l'exercice de leur fonction après la mort du lieutenant général Adolphe Chimirimana, ancien proche du président Pierre Nkurunziza et ex numéro 1 des services secrets burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. Le président Barack Obama met fin aujourd'hui à sa visite historique à Cuba par un discours adressé au peuple cubain et délivré au Grand Théâtre de la Havane en présence du président Raúl Castro et de nombreux dignitaires du Parti communiste cubain. Barack Obama a rappelé le but de sa mission.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Je suis venu ici pour enterrer les dernières séquelles de la guerre froide dans les Amériques. Je suis venu ici pour tendre la main de l'amitié au peuple cubain.
Barack Obama a aussi appelé à la levée de l'embargo commercial adopté il y a des décennies par les États-Unis contre Cuba, embargo qu'il a qualifié de fardeau dépassé, imposé au peuple cubain. Il est temps de le lever, s'est-il écrié.
Revenons en Afrique, arrestation et intimidation des leaders d'opinion à N'Djamena au Tchad. Trois responsables de la société civile sont en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Des précisions avec André Kolmadjingar.
Nadio Kainan, porte-parole du mouvement citoyen INA en arabe local, qui veut dire « nous sommes fatigués », recherché depuis hier, est arrêté ce matin par la police nationale. Son arrestation fait suite à l'appel de son organisation à une manifestation pacifique ce mardi 22 mars sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer l'injustice sociale que le pouvoir en place impose au peuple tchadien depuis bientôt 26 ans. Younous Mahadir de la plateforme Ça suffit, qui a intervenu ce matin sur la au sujet de l'arrestation de son collaborateur Mohamed Nour Ibedou, a été lui aussi arrêté ce mardi matin. Leur plateforme Ça suffit appelle les Tchadiens à une manifestation pacifique d'ici le 29 mars si le président sortant Idriss Déby Itno ne retire pas sa candidature à la magistrature suprême. Au total, trois activistes des organisations de la société civile hostiles à la candidature du président sortant sont arrêtés et écoutés sur procès verbal. Ils seront déférés au parquet d'instance demain mercredi et les autres leaders seraient activement recherchés par la police. André Kodumadingar, à l'ouest du Tchad, pour la VOA Afrique.
Et puis quelques mots sur le référendum constitutionnel au Sénégal. Le oui a remporté avec plus de 62% des voix. Le référendum constitutionnel de dimanche au Sénégal visant notamment une réduction du mandat présidentiel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lendon.
Au Cameroun, Samuel Eto'o devient l'ambassadeur de la filiale camerounaise de l'opérateur téléphonique MTN après avoir longtemps prêté son image au concurrent Orange Cameroun. Les clients de MTN ont été bombardés de messages durant le week-end. Depuis le 21 mars, les réseaux sociaux sont envahis par des publicités de Samuel Eto'o vantant la marque sud-africaine. Au Maroc, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné la liquidation de l'unique raffinerie pétrolière du royaume, incapable de rembourser ses plus de 4 milliards d'euros de dettes. Cette décision de justice intervient après une première tentative de règlement qui n'a pas convaincu les créanciers de la société anonyme marocaine et italienne de raffinage, selon une source judiciaire. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a été accusé jeudi au Parlement d'être sous l'influence de la famille Gupta, une grande famille d'affaires d'origine indienne, qui serait allée jusqu'à intervenir dans l'attribution des postes ministériels à certaines personnalités et intervient dans les choix économiques et stratégiques du pays. Soulignons que le président sud-africain est déjà sous le coup d'une décision de justice à propos de la rénovation de sa villa secondaire estimée à 20 millions d'euros. S'il est condamné, il devra rembourser cette somme.
La Minute Éco, merci John Lendon.
Et maintenant, notre page sport, présentée aujourd'hui par Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonsoir Claire.
Et on démarre par le foot. Là aussi, on parle des attentats de Bruxelles, Nicolas.
Dieu merci Mbokani, l'attaquant congolais de 30 ans, était présent à l'aéroport de Zaventem mais n'a pas été blessé suite aux explosions meurtrières aujourd'hui à Bruxelles. C'est son club Norwich City qui l'a confirmé sur son site officiel. Le joueur prêté par le Dynamo de Kiev est sain et sauf, mais choqué. Le club est en dialogue continu avec Dieu merci qui est retourné chez lui auprès de sa famille, poursuit le communiqué. Je vous rappelle que Mbokani était en partance pour Kinshasa où il devait affronter l'Angola samedi avec les Léopards dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Les qualifications de la CAN 2017 reprennent mercredi.
Les 3e et 4e journées des éliminatoires marquées par les grands débuts d'Hervé Renard samedi à la tête du Maroc. Renard remercié à Lille. Aura-t-il la même réussite qu'avec la Zambie et la Côte d'Ivoire qui l'a mené au titre suprême africain? Nous verrons bien en tout cas dès demain dans le groupe C, Sud-Soudan contre le Bénin. Dans le groupe G, le Tchad contre la Tanzanie. Dans le groupe F, Sao Tomé et Principe contre la Libye. Et puis dans le groupe E, Guinée-Bissau, Kenya et Zambie, Congo. On rappelle que les premiers de chacun des 13 groupes sont qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, et le Gabon évidemment en tant que pays organisateur.
On passe à l'athlétisme.
Le Kenya a jusqu'au 5 avril pour fournir à l'Agence mondiale antidopage des éléments concernant sa nouvelle politique antidopage. Si le pays ne se conforme pas aux règles de l'AMA, ses athlètes pourraient être privés des Jeux olympiques de Rio cet été.
Usain Bolt court toujours plus vite.
Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt veut, en cette année olympique, abaisser son record du monde du 200 mètres sous les 19 secondes. C'est la chose que je veux le plus au monde car c'est l'un de mes objectifs. J'en parle depuis toujours et je l'ai toujours voulu. J'attends ça de pied ferme, a-t-il prévenu.
Enfin, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
San Antonio battu par Charlotte 88-91. De son côté, Golden State s'est remis de sa défaite du week-end en allant s'imposer sur le parquet de Minnesota 109-104. À Cleveland, LeBron James a réussi le 41e triple-double de sa carrière lors de la victoire face à Denver 124-91.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Notre première escale, l'actualité oblige, la Belgique.
Et nous revenons, Chérubin, sur ces attentats à Bruxelles. Deux explosions à l'aéroport international et une autre dans une station de métro ont endeuillé la capitale belge. Le bilan provisoire est de 34 morts et de plus de 100 blessés. Le groupe État islamique les a revendiqués. Le Premier ministre belge Charles Michel a déploré ce qu'il appelle un moment de tragédie, un moment noir pour la Belgique.
Nous redoutions un attentat et c'est arrivé, a dit M. Michel, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, aux côtés du procureur fédéral belge, après des explosions à l'aéroport de Zaventem et dans une rame de métro du quartier européen. Dans cette rame de métro se trouvait Alphonsine Sorozo.
L'explosion a eu lieu à cette station-là. Et on était tous sous le choc, on avait une boule de feu. Heureusement, c'était à l'extérieur, on voyait la boule de feu derrière. Puis bon, la panique, on s'est levé. Le temps de trouver une issue de sortie, il y a eu une deuxième explosion. Et là, bon, les vitres, normalement, on commençait à casser les vitres pour pouvoir s'extraire des voitures et métro. Donc on est sorti, on cherchait la première sortie pour accéder à la surface.
Vous avez vu des morts?
Ah oui, oui, oui. Déjà dans les tunnels, oui, oui. À ma gauche, j'ai vu un homme qui était étendu, il était déjà mort. Je suis sortie. Il y avait des morceaux de chair humaine. L'horreur qu'on voit quand il y a des attaques, c'était une vision apocalyptique. Je suis sortie par la chaussée de Terbeek. Et puis j'ai été voir du côté de rue Joseph II. C'est là où j'ai vu tous les blessés qu'on avait pu déjà sortir. C'était horrible, c'était horrible.
Et comment vous avez fait pour rentrer?
Mais pour rentrer, c'était encore plus difficile parce que tous les quartiers étaient bouclés. Je suis remontée vers la rue de la Loi, tout était bloqué. Et quand je suis arrivée à une station de métro, donc tout était bloqué. Les panneaux partaient à vide, les stations de métro étaient à vide. J'ai marché chez moi, j'ai fait 2 heures de marche. C'est parce que les taxis, on n'en trouvait pas non plus. Donc, c'était la pagaille, les magasins fermés. Je pense que chacun passait plutôt à rentrer chez soi. Il n'y a personne, qui pouvait faire quoi que ce soit.
Et aujourd'hui, à quoi ressemble Bruxelles alors?
Écoutez, Bruxelles, tout ce qui résonne dans la ville, c'est plus les ambulances qu'autre chose. C'est des ambulances. Et la ville est une ville morte. Il n'y a rien. Tout est à l'arrêt, l'aéroport est fermé, bon, les hôpitaux sont saturés, les rendez-vous pour d'autres personnes, la plupart sont annulés parce qu'on doit assurer sans doute le plus urgent, les blessés. C'est terrible.
Alphonsine Sorozo, témoin de l'attentat au métro de Malbec à Bruxelles, elle était jointe au téléphone par Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et puis cette menace terroriste en Afrique également. En moins de 10 jours, 2 attaques terroristes ont été perpétrées en Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile estiment que les efforts consentis par les différents gouvernements sont insuffisants et donnent des pistes en vue de limiter ces attaques qui nuisent au développement de la région. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kaïl Osson.
4 mois après l'attentat à l'hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 novembre 2015, la capitale malienne vient d'être victime d'une nouvelle attaque terroriste. Entre les deux attaques, le terrorisme est passé par deux villes de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou au Burkina Faso le 15 janvier et Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier. Des attentats insoutenables pour la société civile qui amènent le réseau ouest-africain d'action sur les armes légères Razalao à se poser des questions. Amadou Moussa Maïga, président de Razalao Mali.
Nous avons besoin de savoir qui finance ces gens-là qui utilisent les armes pour tuer, pour détruire ce sur quoi nous nous espérons pour développer chez nous. Qui les finance? Où est-ce que ça vient ces armes? Comment est-ce que malgré les dispositions prises au niveau des frontières, ils arrivent à traverser? Comment? Qui est complice?
Bakar Dia, responsable de CET, une ONG mauritanienne active dans la lutte contre la prolifération illicite des armes et la criminalité transfrontalière, indique que la porosité des frontières ouest-africaines facilite la circulation des armes qui sont utilisées à des fins terroristes.
Je crois que si on arrivait à contrôler mieux les armes, on aurait dû quand même se passer de beaucoup d'attentats. La situation est la même maintenant partout. Des frontières poroses. Il y a une particularité sur laquelle nous devons sensibiliser tout le monde, c'est que le danger maintenant vient de l'interne. Les groupes sont à l'intérieur des pays. L'exemple du Bassam, l'exemple du Mali, l'exemple de quelques attentats en 2009 en Mauritanie. Le danger maintenant est à l'intérieur des frontières. Donc les États doivent redoubler d'efforts. Il doit y avoir un partage d'informations, un partage de stratégies pour endiguer ce phénomène.
Dans cette lutte, Interpol appuie les pays ouest-africains dans le partage des informations et le renforcement de la collaboration. John Hajman, coordinateur du programme sur les armes à feu à Interpol.
Cooperation is the number one goal.
La collaboration est le premier pilier sur lequel les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent compter pour lutter contre les attaques terroristes. Interpol va leur donner des appuis nécessaires pour renforcer leur système de renseignement. Et ce système doit être basé sur une collaboration mutuelle. Lorsqu'un pays détient une information, il doit la faire partager avec tous les autres pays. Nous allons y travailler ensemble. Pour le président de Razalao Mali, il est temps que les populations de cette région africaine prennent en main leur propre sécurité en devenant des agents de renseignement. Nous retrouvons Amadou Moussa Maïga.
Le jour où un étranger qui arrive dans notre village, dans notre commune, dans notre hamou, dans notre canton, est sûr tout de suite qui il est, où est-ce qu'il a quitté, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, il est ici pourquoi. Et moi, j'assume entièrement la responsabilité de ce que tu es venu faire. C'est à ce stade qu'on est arrivé maintenant. Et si nous, Africains, on ne se serre pas la ceinture, ils vont nous finir inutilement. Donc, il faut que chacun de nous soit un agent de sécurité.
La recrudescence des attaques terroristes ces derniers mois en Afrique de l'Ouest met les autorités togolaises sur le qui-vive. Elles ont renforcé la sécurité au niveau des grands hôtels et points stratégiques de la ville de Lomé. En l'espace d'un mois, les forces armées togolaises ont organisé deux exercices de simulation d'attaques terroristes. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Niger, la CENI a publié aujourd'hui les résultats tant attendus du second tour de la présidentielle. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, est réélu avec plus de 90% des suffrages exprimés, ce que rejette la coalition de l'opposition, la COPA 2016. Celle-ci, avant même l'annonce des résultats, avait lancé un appel à la résistance civile. Timothée Donangmaï a joint notre envoyé spécial à Niamey, Bagassi Koura.
L'un des leaders de l'opposition, Amadou Aboubakar Cissé, donc a déclaré que la Cour constitutionnelle devrait respecter le délai des recours qui est de 15 jours. Sinon, l'opposition appelait à une résistance civile, donc une résistance populaire à partir du 1er avril. Le 1er avril, vous savez, c'est la fin officielle du mandat du président Mahamadou Issoufou. Et l'opposition, bien sûr, a réitéré sa volonté de ne pas reconnaître les résultats donc, de ce scrutin du 20 mars. L'opposition qui appelle donc ses militants à être prêts pour des manifestations, notamment à partir du 1er avril, pour contester ce nouveau pouvoir et toutes les institutions issues de ces élections.
Lorsque l'opposition parle du délai légal pour les recours, entend-elle en introduire quand bien même elle a boycotté le second tour?
Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. L'opposition qui a bien boycotté le second tour entend introduire des recours. Et l'opposition a même des chiffres, même si elle n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. L'opposition estime que le taux de participation que la CENI a estimé à près de 59%, l'opposition estime que ce taux-là est autour de 11%. Et donc l'opposition va se baser sur un certain nombre d'informations de ce genre pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle et veut que la Cour respecte le délai de 15 jours, ce qui va obliger à aller au-delà donc du mandat de Issoufou qui devrait finir au plus tard le 1er avril.
S'achemine-t-on vers l'épreuve de force entre l'opposition et le pouvoir dans ce cas?
Oui, c'est cette impression qu'on a, parce que les camps sont quand même assez tranchés. On a vu tout à l'heure, lors de la proclamation des résultats, les partisans du pouvoir qui ont tout de suite applaudi, qui vont certainement célébrer dans la soirée cette victoire de Amadou. Pendant que de l'autre côté, on ne compte pas du tout sur ces élections. On pense que ça a été un non-événement et donc que Issoufou n'a pas été réélu et il devrait donc remettre en cause son mandat parce que l'opposition parle d'une période de transition pour organiser des élections beaucoup plus démocratiques selon elle.
Bagassi Koura, envoyé spécial de VOA Afrique au Niger.
Dans Washington Forum cette semaine, la visite historique de Barack Obama à La Havane. De l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à ce premier voyage d'un président américain depuis 90 ans, retour sur un demi-siècle de relations conflictuelles entre les États-Unis et Cuba. Après l'embargo, quel avenir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Discours du président Barack Obama aujourd'hui à La Havane, un discours qualifié de message de paix au peuple cubain à l'occasion de sa visite historique sur l'île communiste. Idrissa Sedoudia.
Actualité oblige, le président Obama a tenu d'abord à rendre hommage aux victimes des attentats terroristes d'aujourd'hui à Bruxelles. Il a exprimé sa profonde indignation face à ces attaques contre des innocents en condamnant fermement ces attentats terroristes. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour notre ami la Belgique pour traduire en justice ceux qui sont responsables de ces actes. M. Obama a appelé le monde à s'unir face à ceux qui menacent la sécurité des peuples à travers le monde. Il s'était entretenu auparavant avec le Premier ministre belge, Charles Michel, pour lui exprimer son soutien. Barack Obama a ensuite reconnu les difficultés dans l'histoire des relations entre Cuba et les États-Unis.
Havana is only 90 miles from Florida.
La Havane ne se trouve qu'à 145 kilomètres de la Floride. Mais pour arriver ici, nous avons dû traverser une grande distance au-dessus de barrières d'histoire et d'idéologie, des barrières de douleur et de séparation, a déclaré M. Obama. Il a reconnu que les divergences entre Washington et La Havane sont réelles et elles sont importantes. Mais, a déclaré le président américain, les deux parties peuvent encore aller de l'avant avec une normalisation historique des relations.
I have come here.
Je suis venu ici pour enterrer les dernières séquelles de la guerre froide dans les Amériques. Je suis venu ici pour tendre la main de l'amitié au peuple cubain. Barack Obama a aussi appelé à la levée de l'embargo commercial adopté il y a des décennies par les États-Unis contre Cuba, embargo qu'il a qualifié de fardeau dépassé, imposé au peuple cubain. Il est temps de le lever, s'est-il écrié. Simultanément, le président américain a critiqué le gouvernement cubain, soulignant que même si l'embargo était levé, le peuple cubain ne serait toujours pas en mesure de réaliser son potentiel en l'absence de réformes démocratiques.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear.
Les gens devraient pouvoir critiquer leur gouvernement et choisir ceux qui les gouvernent, a déclaré M. Obama. Pour rappel, le Congrès des États-Unis peut lever l'embargo. Et il est contrôlé actuellement par les adversaires républicains de M. Obama qui ne sont pas d'accord avec le changement de politique envers Cuba.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit... Peace, Africa!
de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Souleymane Tarawalé, présentation, Clermont Gibourg et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. N'oubliez pas surtout de visiter notre site internet voafrique.com.